Comme le frère vient de nous dire, hier soir j'ai eu l'occasion de vous parler de la grâce de Dieu et le salut que Dieu nous offre par sa grâce. Et comme j'ai voulu vous faire voir, cette grâce, nous avons accès à cette grâce par la foi, et uniquement par la foi. Nous ne pouvons pas mériter ce que Dieu nous donne gratuitement, c'est impossible. Et la grâce suggère que ce que Dieu nous le fait gratuitement. Et c'est ce que l'apôtre Paul soutient aussi dans son épître aux Romains. Mais si nous sommes sauvés par la foi, cela ne veut pas dire que nous croyons seulement sans rien faire. Parce que tout comme la grâce de Dieu comprend toute l'initiative de Dieu envers les hommes pour les sauver, la foi comprend aussi toute la réponse de Dieu à cette grâce, c'est-à-dire la foi et le repentir et le baptême. Tout cela est compris dans la foi lorsque l'apôtre Paul nous dit que nous avons accès à la grâce de Dieu moyennant la foi. Ce n'est pas une foi seule, ce n'est pas une foi sans œuvre, mais c'est une foi en action, c'est une foi obéissante, une foi qui nous est donnée par Dieu gratuitement, mais que nous devons accepter aussi par la foi. Et le baptême constitue justement le moment où nous accédons à la grâce que Dieu nous donne. Le baptême n'est pas une œuvre à nous, bien sûr, c'est une obéissance que nous rendons à Dieu. Mais par cet acte d'obéissance, de soumission à Dieu, nous témoignons notre foi et nous recevons en ce moment-là le pardon de nos péchés et la vie nouvelle. Nous devons comprendre cela, parce que sinon, ce que j'aurai à vous dire ce soir serait un non-avenant. Ce ne sera pas nécessaire de connaître le reste, si nous ne sommes pas donc en position de recevoir les bénédictions de Dieu qui nous découlent du fait que nous sommes ses enfants, que nous avons obéi à sa parole. Donc, en continuant nos études ce soir, n'oublions pas ce que nous avons dit hier soir et que j'ai voulu accentuer dans cette étude. Je vais vous raconter une histoire que plusieurs d'entre vous sûrement connaissez déjà. C'est l'histoire d'un jeune homme qui a voulu un jour quitter la maison paternelle pour s'en aller dans le monde. Il a demandé à son père de lui donner sa part dans l'héritage, bien que son père était toujours vivant. Et son père lui a donné la part qui lui revenait, et il est parti dans un pays lointain. Et quand il arrive dans ce pays, ce qu'il fait, c'est de dépenser tout son argent en vivant dans la débauche. Et après, il y avait une grande famine dans ce pays. Et le jeune homme a été réduit vraiment à la misère. Il n'avait plus rien, plus d'amis, plus d'argent. Et il a dû donc aller s'engager pour garder les pourceaux. Pour lui, c'était vraiment le travail le plus méprisable. Mais il a gardé les troupeaux, les pourceaux. Et il était tellement affamé qu'il aurait voulu manger des croûtes rouges qu'on donnait aux pourceaux. Et personne ne lui donnait rien. Et finalement, il est revenu en lui-même. Et il a réfléchi. Il dit, voilà mon père qui a des employés, des serviteurs, qui mangent bien. Ils ont tout ce qu'il leur faut. Et moi, je suis ici à mourir de faim. Voilà ce que je vais faire. Je vais retourner chez mon père. Et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre toi et contre le ciel. Je ne suis plus digne d'être appelé ton enfant. Fais-moi comme un de tes serviteurs. Alors, il s'est levé et il est retourné vers son père. Et le père regardait toujours, il avait le cœur qui avait beaucoup de tristesse pour son enfant, qui voulait le revoir, et un jour il voit son fils s'approcher, et il court vers lui, et il l'embrasse, et il dit, mon fils, combien je suis heureux de te revoir. Et le fils commence à lui dire, mon père, j'ai péché contre toi, contre le ciel, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Et puis le père l'arrête. Il dit, mon fils, tu étais mort, mais tu es revenu à la vie. Tu étais perdu, mais maintenant tu es revenu à la maison. Donc le père l'a accueilli dans la maison et lui a pardonné tout le mal, toute la disgrâce même qu'il avait apporté sur le père et sur la famille. Mais il ne s'arrête pas là. Non seulement il lui pardonne, et non seulement il l'accueille dans la maison, mais il appelle la meilleure robe pour le revêtir. Il veut mettre des nouveaux sandales sur lui. Ce jeune homme est revenu certainement dans des chiffons sales. Il est revenu les pieds peut-être presque nus. Il est revenu vraiment dans un état horrible. Mais son père veut le revêtir de la meilleure robe. Il veut mettre des nouveaux sandales à ses pieds. Il veut aussi lui donner une bague sur son doigt. Voilà ce que Dieu veut faire pour nous. Non seulement Dieu veut nous pardonner le passé, les péchés que nous avons commis, mais il ne nous reçoit pas comme des esclaves. Il nous reçoit comme des enfants, comme ce fils a été reçu comme un enfant dans la famille. Et puis, il nous revêt des robes de justice qui viennent de lui, que nous n'avons pas méritées. Il nous donne une vie nouvelle. Et il veut que nous soyons non seulement pardonnés, mais que nous soyons de nouveau reçus comme avant dans une famille où nous avons toutes les grâces et toutes les bénédictions de la famille paternelle. Voilà ce que Dieu veut faire. Non seulement Dieu pardonne nos péchés par sa grâce, mais Dieu aussi veut que nous soyons de nouveau comme lui, que nous soyons revêtus de sa justice, que nous ayons la sainteté de Dieu en nous. Vous savez, Dieu nous aime ainsi pour nous recevoir tels que nous sommes. N'est-ce pas merveilleux? Que Dieu nous reçoit tels que nous sommes, quoi que nous ayons fait, quoi que nous ayons été, Dieu nous reçoit. Mais ce qui est encore merveilleux, c'est que Dieu nous aime trop pour nous laisser tels que nous sommes. Il veut que nous soyons comme lui. Il veut que nous soyons saints, comme il est saint. Donc, non seulement sommes-nous sauvés par la grâce de Dieu, comme Paul dit en Éphésiens chapitre 2, verset 8, nous sommes sauvés par grâce, moyennant la foi, mais il nous enseigne aussi que cette grâce va plus loin. Non seulement nous sommes sauvés par la grâce, mais la grâce nous enseigne certaines choses. La grâce nous montre ce que nous devons être, ce que nous devons de plus en plus devenir. En Tite chapitre 2, à partir du verset 11, voici ce que dit l'apôtre Paul. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Cette grâce qui nous a été révélée dans l'Évangile, que Jésus est venu nous apporter, cette grâce est manifestée à tous les hommes. Elle nous enseigne, non seulement elle nous sauve, mais elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, au désir de ce monde et à vivre dans ce siècle présent d'une manière sensée, juste et pieuse, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Il s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité, voilà le salut, et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les œuvres bonnes. Donc, la grâce de Dieu va plus loin que de nous sauver de nos iniquités, mais pour nous faire aussi le peuple de Dieu, le saint peuple de Dieu. Parce que Dieu veut que nous soyons saints. Il veut que nous soyons revêtus de sa sainteté. La raison en est qu'il veut ainsi nous sanctifier. Et il le fait. Le vrai bonheur sera la fruit de cette sanctification. Il y en a qui nous disent parfois, je pense que Dieu veut que je sois heureux. Je pense que Dieu veut mon bonheur ici sur la terre. Et en effet, Dieu veut cela, mais ce n'est pas la chose qu'il veut principalement. Ce que Dieu veut plus que toute autre chose, c'est notre sanctification. Et si nous sommes sanctifiés par Dieu, eh bien, le bonheur viendra ensuite. Ce n'est pas là donc le but de notre existence, mais le but, c'est que nous soyons sanctifiés, que nous soyons comme lui. Dieu veut ainsi la sanctification. Il veut que nous soyons saints comme il est saint, comme dit l'apôtre Pierre, en 1 Pierre chapitre 1, versets 15 et 16. « Comme celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints, car il est écrit, « Soyez saints, car je suis saint. » Dieu veut donc que nous soyons de plus en plus saints devant lui. 1 Thessaloniciens chapitre 4 et le verset 3. L'apôtre Paul parle de la vie à laquelle Dieu nous a appelés et il nous assure que la sanctification est ce que Dieu veut de nous. Tout le reste viendra peut-être dans la suite, mais la chose principale, c'est que nous soyons saints devant lui. Il veut que son Église soit saint aussi. Si nous sommes individuellement saints, alors l'Église dans la collectivité sera certainement saint. Ainsi l'apôtre Paul en écrivant aux Éphésiens, chapitre 5, à partir du verset 25, nous dit que les maris doivent aimer leurs femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est donné lui-même pour elle. Pourquoi? Afin de la sanctifier après l'avoir purifiée par l'eau et la parole. Pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et sans défaut. Donc l'Église doit être sainte, mais l'Église sera sainte uniquement quand ceux qui sont rachetés par Dieu et qui composent son Église seront saints. Donc la sanctification, c'est ce que Dieu veut. Mais quelle est la sanctification? On parle, n'est-ce pas, des mots parfois et on ne sait pas ce que ça veut dire. Or, le mot sanctification est un mot qui veut tout simplement dire mis à part, séparé. Le mot grec pour ce mot, c'est agiasmos, qui veut dire séparé, séparé du monde. Vous savez, dans l'Ancien Testament, à l'époque de la loi mosaïque, les prêtres, les sacrificateurs, étaient saints, ils étaient mis à part. C'était une classe de personnes qui étaient mises à part pour le service de Dieu. L'autel était saint, parce que l'autel était consacré à un usage spécial pour Dieu. Tous les ustensiles dans le tabernacle, tous les meubles dans le tabernacle étaient appelés saints, parce que tout cela avait été mis à part pour le service de Dieu. Or, nous sommes appelés à être saints, c'est-à-dire à être séparés du monde et des choses qui sont purement mondaines, afin que nous appartenions à Dieu et que nous soyons séparés pour lui, pour le servir, pour sa gloire. Par notre obéissance à l'Évangile, notre purification par le sang de Jésus dans les eaux du baptême, nous avons été sauvés du péché. Et nous sommes devenus par là un saint sacerdoce, une sorte de prêtrise, si vous voulez, qui est sainte devant Dieu. Et ainsi, nous lui appartenons, nous sommes la possession de Dieu. Après avoir été rachetés par le sang de Jésus, nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes, mais nous devenons ainsi la possession de Dieu, le peuple de Dieu, le peuple saint. En Apocalypse chapitre 1, versets 5 et 6, Jean, en parlant de l'œuvre de Jésus pour notre rédemption, nous dit que quand nous avons été purifiés par le sang de Jésus, nous sommes devenus un royaume, un sacerdoce, ou un royaume de prêtres, si vous voulez, pour Dieu, pour lui appartenir. Et l'apôtre Pierre, dans la première épître de Pierre, chapitre 2, nous dit que nous avons été édifiés pour former la maison spirituelle, le temple de Dieu, pour devenir un sacerdoce royal, afin que nous puissions ainsi servir Dieu, obéir à Dieu et ainsi glorifier Dieu. Voilà à quoi Dieu nous a appelés. Donc, à partir de ce moment-là, nous sommes la possession de Dieu, nous sommes son peuple, et tandis que la justification ou le salut dont nous avons parlé hier soir est un acte accompli, quand nous avons obéi à l'Évangile, nos péchés sont pardonnés et nous sommes en ce moment-là rachetés par Dieu. Mais à partir de ce moment, nous devons être sanctifiés et la sanctification est une œuvre à longue haleine. C'est une œuvre qui se fera tout au long de notre vie jusqu'à ce que nous ne serons plus sur cette terre. L'apôtre Paul, en écrivant aux Corinthiens, dans la deuxième épître aux Corinthiens, nous dit dans le chapitre 6, à partir du verset 16, « Car nous sommes le temple de Dieu, du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. » C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Voilà ce que veut dire la sanctification. Séparez-vous du Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur. Et moi, je vous accueillerai, comme le père du fils prodigue a accueilli son fils à la maison paternelle. Je vous accueillerai, dit Dieu. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Et puis il continue dans le verset suivant, chapitre 7, « Puisque nous avons de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit en développant jusqu'à son terme la sainteté dans la crainte de Dieu. » Ce que Paul veut dire ici, c'est que nous devons continuellement nous sanctifier, que nous devons continuellement nous laisser sanctifier par Dieu, afin que nous devenions de plus en plus comme lui. Dieu nous appelle donc à nous séparer du monde. En Jean chapitre 17, Jésus pria pour ses disciples. Et dans la prière qu'il a adressée à son Père, il dit notamment dans le chapitre 17 à partir du verset 15, « Je ne te prie pas pour les autres du monde. » Ce n'était pas pour que les disciples ne soient plus dans le monde, ils devaient rester dans le monde, ils avaient une mission à accomplir dans le monde. Donc ils ne prient pas pour qu'ils soient ôtés du monde, mais de les garder du malin. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Oui, Jésus est venu dans le monde, mais il n'était pas de ce monde. Il était le fils de son père, il ne s'est jamais assimilé au monde. Tout en étant dans le monde, en vivant dans la chair comme nous, il n'était pas de ce monde. Et il veut que ses disciples ne soient pas de ce monde. Dans le monde, mais pas de ce monde. Donc il dit, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les ai envoyés dans le monde. Et moi, je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés dans la vérité. Donc, Dieu nous appelle hors de ce monde, tout en étant dans le monde, pour que nous soyons son peuple, sanctifiés, reflétant la gloire de Dieu, la sainteté de Dieu. Il veut donc que nous présentions nos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, et que nous ne soyons pas patronnés selon ce monde, mais que nous soyons renouvelés, comme dit l'apôtre Paul au Romains chapitre 12, que nous soyons renouvelés dans notre intelligence et dans notre compréhension des choses qui viennent de lui. Ainsi, comment pouvons-nous nous sanctifier? C'est facile de le dire. Comment sommes-nous sanctifiés par Dieu? Eh bien, disons d'emblée que la sanctification n'est pas quelque chose que nous pouvons faire par nous-mêmes. pas plus que nous pouvons nous sauver par nous-mêmes. Oui, nous devons donner notre concours, nous devons participer à l'œuvre de Dieu, consciemment, volontairement, nous devons nous soumettre à la volonté de Dieu. Mais nous ne pouvons pas vivre comme Dieu le veut sans l'aide de Dieu. Et c'est pour cela qu'à la Pentecôte, lorsque l'apôtre Pierre prêchait pour la première fois l'évangile d'un sauveur crucifié, enseveli, ressuscité, ceux qui ont entendu cette parole ont été touchés jusqu'au fond du cœur. Ils ont demandé à un frère, que ferons-nous? Et la réponse de Pierre est assez connue. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus et vous serez sauvés. Combien cela est important. Nous devons donc répondre à l'appel de l'Évangile, nous devons obéir au commandement de l'Évangile, nous repentir et nous faire baptiser au nom du Seigneur Jésus pour être sauvés. Mais à partir de ce moment-là, comment est-ce que nous allons vivre? Avec quelle assistance aurons-nous la possibilité de vivre la vie à laquelle Dieu nous appelle? Pierre ajoute, « Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Et par le don du Saint-Esprit, Pierre signifie que nous aurons en nous une aide pour nous assister à vivre la vie à laquelle Dieu nous appelle. Oui, le Saint-Esprit nous est accordé comme un don. Paul le dit en Romains chapitre 5, verset 5, « L'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qu'il nous a donné. » Donc, le Saint-Esprit est là pour nous aider. Mais le Saint-Esprit ne fait pas cette œuvre sans notre concours. Nous devons nous soumettre à sa direction. Nous devons écouter sa parole. N'oublions pas ce que Jésus a dit en Jean chapitre 17, verset 17, lorsqu'il a demandé au Père, « Sanctifie-le par ta vérité. Ta parole est la vérité. » Donc le Saint-Esprit nous parle. Comme nous avons lu tout à l'heure en Tite, le Saint-Esprit nous enseigne et il ne nous laisse pas dans le noir à savoir ce que nous devons faire. Il nous enseigne quelle est la volonté de Dieu, quelle est la vie à laquelle Dieu nous appelle, quelle est la sanctification vers laquelle nous devons aspirer. Et puis, en écoutant la parole du Seigneur, en mettant en pratique ce que Dieu nous dit, nous avons l'aide du Saint-Esprit pour que nous puissions le faire. Combien de fois j'ai entendu des personnes donner cette réflexion? Moi, je serai prêt à devenir chrétien. Je serai prêt à me repentir et à être baptisé. Mais je ne pense pas que je serai capable de vivre la vie sainte que la Bible enseigne. De vivre comme Dieu nous enseigne dans la parole. Je ne serai pas capable de faire cela. Et je leur dis, vous avez raison. Vous ne seriez pas tout seul. Voilà ce qui était réellement la faiblesse de la loi mosaïque. Sous la loi mosaïque, on était laissé à soi-même d'accomplir tout ce que Dieu avait dit dans la loi. Tous les commandements, toutes les ordonnances, on était laissé à soi-même d'accomplir tout cela. Et vous savez ce qui était le résultat. Personne n'a jamais su le faire. Personne, sinon notre Seigneur Jésus, qui a gardé la loi de Dieu parfaitement. Mais pour le reste, tout le monde a péché. Parce que le principe de la loi était celui-ci. Celui qui gardera ces choses vivra par elles. Et personne n'a jamais su le faire. Mais nous avons maintenant une aide que ceux qui vivaient avant la venue de Jésus n'avaient pas. C'est-à-dire, nous avons l'aide du Saint-Esprit. Et il est dit donc dans la parole que nous sommes sanctifiés par l'Esprit. En 2 Thessaloniciens, chapitre 2, l'apôtre Paul écrit ses paroles à l'église à Thessalonique. Chapitre 2 de 2 Thessaloniciens, à partir du verset 13. Quant à nous, frères bien-aimés, par le Seigneur, nous devons continuellement rendre grâce à Dieu à votre sujet, car Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut. Voilà ce qui est important. Il nous a choisi pour le salut, pour, par l'obéissance à son évangile, nous sommes sauvés du péché. et aussi, dit-il, pour la, par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. Donc, le Saint-Esprit nous sanctifie. C'est son œuvre en nous, la sanctification. Mais cela ne veut pas dire que nous n'avons rien à faire, que nous devons être complètement passifs vis-à-vis du Saint-Esprit. Le don du Saint-Esprit est un don très précieux. C'est un don que Dieu nous a accordé dans son amour. Et c'est un don que nous devons aussi apprécier et que nous devons nourrir en nous. Mais le Saint-Esprit nous aidera à vivre comme Dieu nous enseigne dans sa parole. Et ainsi, en Romains chapitre 15, verset 16, il parle de la sanctification par l'Esprit de Dieu. L'Esprit nous a été donné donc comme une aide. Mais ce n'est pas l'Esprit de Dieu sans que nous soyons prêts à nous soumettre à la volonté de Dieu, à l'enseignement du Saint-Esprit. Et où se trouve cet enseignement? Eh bien, c'est ici, dans la parole de Dieu. Et lorsque nous lisons la parole, lorsque nous laissons imprégner par la parole de Dieu, et que nous avons l'amour de la vérité que le Saint-Esprit nous a révélée, eh bien, le Saint-Esprit nous aidera si nous sommes prêts à nous soumettre, à vivre ainsi la vie à laquelle Dieu nous appelle. Nous sommes fortifiés dans notre âme intérieure par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Éphésiens chapitre 3, à partir du verset 16, l'apôtre Paul nous soutient que nous sommes sanctifiés dans notre âme intérieure par le Saint-Esprit. Voici sa prière à partir du verset 14. C'est pourquoi je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié. Comment? Par son esprit dans votre âme intérieure. Donc le Saint-Esprit nous a été donné pour nous fortifier dans notre âme intérieure. C'était très important. Et nous ne pouvons rien faire pour notre sanctification si nous ne laissons pas œuvrer en nous l'Esprit de Dieu qui nous parle à travers la parole. Et si nous vivons selon l'Esprit, dit l'apôtre Paul, nous ne marcherons plus selon la chair. Oui, la chair a toujours ses désirs et ses passions qui sont contraires parfois à la volonté de Dieu. Mais si nous marchons selon l'Esprit de Dieu, eh bien, nous n'accomplirons pas les désirs de notre chair. Voici ce que Paul dit aux Galates, chapitre 5, à partir du verset 16. Je dis donc, marchez par l'Esprit et vous n'accomplirez point les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit. Et l'Esprit, des désirs contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés l'un à l'autre. Et tout le monde doit reconnaître, n'est-ce pas, cette liberté ainsi. Nous avons parfois des désirs qui se portent vers la chair et vers les choses de ce monde. Mais nous devons mater cela avec l'aide du Saint-Esprit. Marchons selon l'Esprit et nous n'accomplirons pas les œuvres ou les désirs de la chair. Donc il continue, « Mais si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes pas sous la loi. » Or, Paul nous montre dans la suite que les œuvres de la chair sont assez manifestes. Quelles sont-elles? Eh bien, dit-il, les œuvres de la chair, ce sont des choses comme l'inconduite, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, les hostilités, les discordes, la jalousie, les fureurs, les divisions. Toutes ces choses, dit-il, ce sont des choses de la chair. Mais comment pouvons-nous surmonter cela? Parce que nous sommes appelés à la sainteté. Et la sainteté ne permet pas que nous vivions ainsi dans la chair. Eh bien, il dit, si nous marchons selon l'Esprit, nous n'allons pas accomplir les œuvres de la chair. Donc, ceux qui me disent, mais moi, je ne veux pas devenir chrétien parce que je ne saurais pas vivre ainsi, doivent reconnaître qu'avec l'aide de Dieu, avec l'aide du Saint-Esprit, cela est possible. On peut surmonter les œuvres de la chair. Mais aussi, l'apôtre continue à nous dire que le fruit de l'Esprit, si nous marchons selon l'Esprit, si nous laissons nous conduire, être conduits par l'Esprit, si nous écoutons l'Esprit et que nous marchons selon cet Esprit, eh bien, le fruit de l'Esprit, c'est quoi? C'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix, c'est la patience, bonté, bénignité, douceur, maîtrise de soi. Voilà ce que le Saint-Esprit fera en nous. Et c'est en vivant ainsi que nous sommes sanctifiés toujours davantage. Donc, il est vrai que nous ne pouvons pas faire cela si nous sommes livrés à nous-mêmes, mais avec l'aide de l'Esprit de Dieu, nous pouvons le faire. L'apôtre Paul dit ceci, écoutez-le bien. C'est en Hébreux, chapitre 12, verset 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Est-ce important que nous soyons sanctifiés? Est-ce important que nous laissions achever en nous l'œuvre du Saint-Esprit pour nous sanctifier et pour devenir de plus en plus à l'image de notre Père? Mais n'oublions pas que avant que cette œuvre de sanctification ne puisse avoir lieu dans notre vie, dans notre cœur, il faut être sauvé. Sans être sauvé, n'est-ce pas, il n'y a pas possibilité d'être sanctifié. Donc, il faut être sauvé. Et nous sommes sauvés, donc, par la foi, par le repentir et par le baptême, au nom du Seigneur Jésus. Comme Pierre le dit, en Actes chapitre 2, verset 38. Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus, pour le pardon de vos péchés, première promesse. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit, deuxième promesse. Et pour nous montrer que ce n'est pas seulement pour ceux de la Pentecôte, mais c'est pour tous ceux qui obéissent à l'Évangile, il ajoute la promesse est à vous et à vos enfants et à tous ceux qui sont au loin, même pour nous qui sommes ici à Genève ce soir. La promesse est pour nous aussi, à condition que, par la foi, nous nous repentions et que nous soyons baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je ne sais pas si vous avez obéi à cette parole. Je ne sais pas si vous êtes sauvés. Il est important, premièrement, que vous soyez sauvés en obéissant au commandement de Dieu. Mais si vous êtes sauvés, si vous avez accompli cette obéissance pour que vos péchés soient effacés, à la bonne heure, je suis heureux, mais ce n'est pas la fin. Il faut, à partir de ce moment-là, vous laisser sanctifier en écoutant et en suivant l'Esprit de Dieu. Quelle sera votre décision ce soir? Est-ce que vous êtes prêt, si vous n'êtes pas encore sauvé du péché, de revenir à la maison paternelle et de vous soumettre à la volonté de Dieu par le repentir, par le baptême? Et si vous n'avez pas suivi fidèlement les traces de Jésus et que vous n'avez pas laissé réellement agir en vous l'Esprit de Dieu en écoutant, en suivant sa parole, et que vous avez besoin de renouveler votre engagement vis-à-vis de lui, ce soir serait le moment de faire cela aussi. Donc, nous vous exhortons d'écouter bien la parole de Dieu et de vous soumettre humblement au commandement de Dieu. Dieu effacera vos péchés, votre passé, quel qu'il soit, et il vous donnera la vie nouvelle. Il vous aidera à partir de ce moment-là de le suivre à partir de cette terre jusqu'au ciel où il vous réserve une place parmi tous les rachetés dans l'éternité. Si vous avez ce désir, vous pouvez le faire savoir, soit à moi, soit à un autre frère dans cette assemblée, et nous serons très heureux de vous y assister. Que Dieu vous bénisse en écoutant et en suivant sa parole. Amen.